La dynamique mentale par Christian Godefroy. Édité par le Club Positif www.cpositif.com. Préambule. Douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre dispensent de réfléchir. Point carré. Une expérience pour le moins étonnante. Je commence vraiment à en avoir assez. Quand on a l'habitude de donner des cours, il est déjà désagréable d'être soi-même sur le banc. Mais lorsqu'en plus, l'animateur est mauvais pédagogue, qu'il ne maîtrise pas parfaitement son sujet, et que l'on est à plusieurs milliers de kilomètres de son domicile, obligé d'écouter et de suivre un amateur, c'est insupportable. Il enchaîne. Mettez-vous par groupe de deux, un directeur et un étudiant. L'étudiant s'allongera, se mettra dans ses niveaux. Il s'agit d'une sorte d'état de relaxation qui nous a été enseigné pendant le cours. Et le directeur lira les instructions. À ce moment, l'étudiant verra mentalement la personne dont il doit signaler la maladie ou le problème. Le directeur doit prendre des notes et encourager l'étudiant. Sans lui donner d'indication, évidemment. Deviner la maladie de quelqu'un que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Voilà qui semble défier le bon sens. Sceptique, mais ravi de faire enfin quelque chose, je me dirige vers Sylvie Hervé qui assiste elle aussi à ce cours. Veux-tu le faire avec moi? D'accord, qui commence? Il me semble que ton intuition féminine te prédispose naturellement à la position d'étudiante, non? Elle a un léger sourire. Entendu, va chercher un cas. Les groupes de deux se forment ça et là dans la grande salle confortable de l'hôtel qui nous abrite, un Hilton. Je suis le premier directeur à réclamer son cas. Une feuille de papier dactylographiée sur laquelle figurent les instructions et le nom, l'âge et le domicile du sujet dont nous devons diagnostiquer les problèmes. Sylvie s'allonge sur l'épaisse moquette. Respire profondément et détends-toi. Elle ferme les yeux, calme sa respiration. Descends dans tes niveaux et dis-moi quand tu es prête. Immobile, elle semble déjà loin. Ça y est, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas avoir devant toi Monsieur Mario Mantella, qui a 55 ans, de Naples. 1, 2, 3. Tu as maintenant devant toi Monsieur Mario Mantella, 55 ans, de Naples. Fais-lui subir un examen minutieux et complet et dis-moi dans quel état il se trouve actuellement. J'attends, serein, curieux d'entendre son diagnostic. Il va certainement être de la plus haute fantaisie. Le rythme de sa respiration augmente. Ses paupières bougent de plus en plus rapidement. Elle halète. Non, non. Elle se plaint, gémit, haletant de plus belle. Et lorsqu'elle commence à se tordre de douleur, mon inquiétude sourde devient de la panique. Parapsychologie et misonéisme. Mon premier contact avec la notion du paranormal remonte à 1962. Le grand succès de Librairie était « Le matin des magiciens ». Son mélange de réalité et de fiction m'avait gêné, mais l'accumulation de faits venant étayer la thèse avait de quoi ébranler. Heureusement, je faisais partie de l'Union rationaliste, qui ne tarda pas à éditer « Le crépuscule des magiciens ». Ce dernier livre démontait les mécanismes, les trucs, les faiblesses de l'ouvrage de Jacques Bergier et Louis Powells. Et la logique pouvait de nouveau briller dans le ciel de la raison, ne laissant nulle obscurité. J'étais rassuré. Tout s'expliquait et ce que la raison ne peut admettre n'existait pas. C'était une position intellectuelle bien confortable qui me faisait rejeter tout ce qui était vraiment nouveau, donc de prime abord incompréhensible. Car comprendre, c'est prendre avec, ajouter une pièce à notre édifice de connaissances. Si la pièce est trop nouvelle, il y a phénomène de rejet, c'est le misonéisme. Cette peur de la nouveauté peut se manifester de façon violente. Certains chercheurs, pour échapper aux persécutions dont ils étaient l'objet, ont dû se réfugier dans la folie. Ce sont les cas célèbres de Wells, qui inventa l'anesthésie à l'éther, de Cantor, mathématicien qui découvrit les nombres transfinis, de Semmelweis, qui trouva l'asepsie au chlorure de chaux, etc. D'autres ont résisté. Galilée, Pasteur, Einstein, pour ne citer que les plus célèbres. Une campagne de publicité lancée par IBM en 1972 rappelait la réaction des milieux scientifiques à quelques découvertes. La locomotive de G. Stephenson est un monstre redoutable, une folie criminelle. Nous proposons son interdiction en France. Académie royale des arts et des sciences, 1829. Nous devons nous opposer de toutes nos forces à la poursuite criminelle des recherches sur la transfusion sanguine. Transfuser le sang d'un autre dans les veines d'un patient provoque à court terme la mort, ou du moins la folie. Un journal de médecine et de chirurgie, 1925. Monsieur Charles Lindbergh vient de réussir, il est vrai, un exploit peu banal. Mais jamais les compagnies d'aviation ne seront assez folles pour confier la vie d'un équipage, voire celle des passagers sur des distances aussi grandes à ces machines, si peu confortables et si peu sûres. Bulletin d'une société scientifique française, 1927. Leur liste est longue. Elle continue aujourd'hui et ne se limitera pas là. L'étude du paranormal, la parapsychologie, souffre de préjugés bien français. 1. Le cartésianisme mal compris. Et 2. Un anticléricalisme latent. Les miracles sont une des preuves avancées pour justifier la religion, et les milieux scientifiques qui ont tant souffert de l'emprise de la religion rejettent le bébé avec l'eau du bain. Les vrais phénomènes paranormaux avec les mystifications et les croyances. Après tout, pour pouvoir dire que ces phénomènes existent, il faut en avoir la preuve. Non pas des études statistiques, des témoignages, souvent sujets à caution. La lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte. Non. Jouons plutôt les saint Thomas. Il faut toucher mieux. Vivre la preuve. Elle le connaît depuis toujours. Ils sont au moins 5 ou 6 qui nous entourent curieux. La respiration de Sylvie est redevenue normale. L'animateur lui a seulement pris la main en lui soufflant « Détendez-vous. Détendez-vous. » d'une voix grave et pénétrante. Prudemment, je reprends la suite des opérations. « Que vois-tu ?»«
Je ne le vois plus. Ah si. Comme il souffre. »
Comment est-il ?
Un homme grand et sec. Un visage altier qui exprime de la noblesse, de l'autorité. Ses cheveux sont tout blancs. Il est sur un lit de fer.
C'est bien. On nous avait conseillé d'encourager.
Et quelle est sa maladie ? Son dos. Je vois son dos. Il ne peut pas bouger. Il a mal. Le pauvre homme. Je crois qu'il est paralysé. C'est sa colonne vertébrale. Un accident de cheval.
Je suis perplexe. La coïncidence est étonnante. Sur la feuille que j'ai sous les yeux, il y a bien paralysie de la colonne vertébrale. Les autres détails sont sans doute le fruit de son imagination. Mais celui-là, je suis pourtant certain qu'elle n'a pu ni le voir, ni l'entendre. Peut-être S'agit-il de télépathie?
Remonte tes niveaux. Rappelle-toi que lorsque tu ouvriras les yeux, ta tête et ton cou seront relaxés. Que tu te sentiras comme rajeuni, rechargé, en harmonie avec la vie.
Je sens son corps reprendre peu à peu la vie. Elle tressaille légèrement. Après un temps qui semble interminable, elle ouvre enfin les yeux.
« Alors, qu'est-ce qu'il avait ?» me demande-t-elle.
« Exactement ce que tu as trouvé. »
Elle n'en croit pas ses oreilles.
Doute d'abord, puis devient enthousiaste. Ses yeux brillent d'excitation.
« Tu sais que je ne pouvais plus bouger du tout ?»«
J'ai bien vu. Tu criais presque de douleur, tu m'as fait une de ces peurs. »
Nous retrouvons celui qui a donné le cas.
« C'est mon oncle, un ancien officier de cavalerie. »
« J'ai l'impression de vivre un cauchemar. »
De l'Edgar Poe. Grand, moustache, tout y est jusqu'au moindre détail. Pourtant, quelque chose cloche.
« Tu me dis qu'il marche, qu'il porte un corset. »«
Oui, mais en ce moment, il est en pleine crise. J'ai reçu une lettre hier, il est au lit. »
Sylvie le coupe, ajoute des détails volubiles.
On a l'impression qu'elle le connaît depuis toujours, deux camarades de pension qui se retrouvent et parle d'un de leurs anciens professeurs.
À toi maintenant.
Après la séance que je viens de vivre, j'esquive.
Non, non, c'est pas la peine.
Allez, si, c'est ton tour. Tu ne vas pas manquer l'expérience. Et elle se dirige vers le bureau pour choisir un nouveau cas.
Prends-moi plutôt quelque chose de bénin.
Je suis pas vraiment rassuré. Comme dans une première expérience amoureuse. Un mélange de désir et de crainte. Je m'allonge, me prépare, puis j'entends, comme dans un brouillard, Martine Lebel, 33 ans, de Paris. 1, 2, 3, tu vois maintenant Martine Lebel, 33 ans, de Paris.
Je ne vois rien du tout.
Regarde mieux. Les images défilent devant mes yeux comme dans un kaléidoscope. Soudain, je vois une cible de cercle concentrique. Une silhouette se découpe en ombre chinoise au centre. Deux balles l'ont touchée et de leur trou s'échappe une lueur rouge.
Je n'y arrive pas.
Que vois-tu ?
Je décris.
L'un est au niveau du ventre, ici. L'autre est au-dessus de la bouche.
Très bien. Essaie maintenant de regarder plus en détail.
Le « très bien » me surprend agréablement, m'encourage. Les tissus, les organes m'apparaissent un peu comme lors d'un reportage chirurgical. Ils sont animés d'une pulsation rythmique. L'irrigation sanguine. Une boule disgracieuse se détache, rougeâtre, boursouflée.
C'est parfait, continue. Maintenant, on passe au visage.
Je vois un cordon noir qui relie la lèvre supérieure au cerveau. Considérez la situation comme normale. Je suis certain de m'être trompé, ou du moins d'avoir été incomplet. Très incomplet. Lorsque je ressurgis, une surprise m'attend.
Tumeur aux intestins,
qui repousse, 7 opérations successives, et tache noire à la lèvre supérieure. Diagnostic du corps médical, origine inconnue. Avide d'en savoir plus, je décide d'observer les autres groupes, qui sont en plein travail. Un jeune homme dit « C'est noir, c'est tout noir. » On le questionne. Il ne fait que répéter « C'est noir. J'ai une impression de froid. Je veux revenir. » Il devait diagnostiquer un cancer généralisé. Je vois un autre groupe. Une femme d'une quarantaine d'années parle, Son directeur a déjà noirci au moins 3 pages de notes hâtives. Une jeune fille m'aborde. Je ne suis pas encore passé. Voulez-vous être mon directeur ?
J'acquiesce.
Il y a un je ne sais quoi d'agréable à regarder de jolies femmes qui se relaxent. Leurs visages sont transfigurés. Certaines deviennent très belles, d'autres vieillissent. Cela me rappelle un passage de Monterland conseillant de regarder la mère avant d'épouser la fille. Tout se passe très bien, presque de la routine. Les facultés d'adaptation humaine sont vraiment extraordinaires. Je me surprends à considérer la situation comme normale. Nous nous retrouvons tous lors d'une pause. L'atmosphère a complètement changé. De réservée, elle est devenue passionnée. On voit ceux qui se défendaient de croire à ces sornettes prendre l'un et l'autre à témoin de l'incroyable situation qu'ils ont vécue. Ils refont le monde à la lumière de leur nouvelle expérience. Ils expliquent, cherchent, écoutent avec intérêt ceux qui savent. Le trou noir, l'impression de froid du jeune homme de tout à l'heure s'explique. Un participant avait donné le cas de sa mère décédée 3 mois plus tôt. Sinistre plaisanterie. Le cas que j'avais moi-même soumis, celui de mon grand-père, colle à la réalité, mais il y a un élément supplémentaire. Il se trouvera vérifié plus tard. Quelque chose dans les reins, en plus des lourdeurs dans les jambes et de l'emphysème que je lui connaissais. Voilà, mot pour mot, ce que j'ai vécu. Depuis, j'ai vu plusieurs centaines de personnes revivre mon étonnement et ma stupeur. Je suis passé de l'autre côté de la barrière et je cherche à comprendre. Vous aussi peut-être. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris ce livre. Développer ses facultés paranormales. Mon fils a 5 ans. C'est l'âge des pourquoi. L'âge où l'on découvre la vie et le monde. En le regardant jouer et vivre, je me demande aussi pourquoi. Pourquoi l'adulte perd-il cette faculté de s'émerveiller, de chercher à comprendre, d'imaginer, de progresser? Prenez n'importe lequel de vos amis, demandez-lui de dessiner un portrait. Il y a de grandes chances pour qu'il vous réponde « je ne sais pas dessiner ». Demandez la même chose à un enfant, il ne se posera même pas la question. Pour lui, dessiner, c'est comme respirer. C'est une fonction naturelle. Pour nous, c'est un don réservé à certains. Il y a ceux qui dessinent, ceux qui écrivent, ceux qui pensent. La spécialisation, la division des tâches, aboutissent à un morcellement de l'être humain. Elles nous limitent. Je pense quelquefois avec envie à un Léonard de Vinci, par exemple. Non pas parce qu'il vivait dans un siècle où il y avait tout à découvrir, il y a toujours tout à découvrir, mais parce qu'il pouvait embrasser l'ensemble des connaissances de son époque. Optique, physique, astronomie, physiologie, anatomie, philosophie, géographie, mathématiques, botanique, acoustique, balistique, hydraulique, architecture, sculpture, peinture, etc. n'avait aucun secret pour lui. Il a trouvé les lois de la gravitation avant Copernic, la fixité de la lumière des étoiles avant Kepler, il montra les lois de la chute des corps avant Galilée, dessina le plan d'un instrument que l'on réalisa ensuite sur ses indications. Comme il ressemblait un peu à la viole, on l'appela le violon. Mais parfois, cet homme véritablement universel se reposait des sciences, quittait son laboratoire, laissait la lorgnette qui lui servait à étudier les astres, posait la lyre sur laquelle il composait des chansons et fermait son atelier où toutes les inventions de notre siècle étaient en train de prendre forme. Alors, prenant sa palette et sa toile, il faisait la scène. Saint Jean-Baptiste ou la Joconde, à ses moments perdus. La totalité des connaissances ne nous est plus accessible. Nous sommes donc obligés de nous bâtir une série de points de repère, d'a priorismes, qui nous permettent de réagir lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous sont étrangères. Ces idées toutes faites,
ne sont-elles pas d'autres entraves à notre progression? Nous avons vu que le scepticisme montré à l'égard de la parapsychologie freinait la progression de nos connaissances dans ce domaine. Très peu de gens aiment à reconnaître qu'ils se sont trompés. Nous nous forgeons bien souvent une opinion hâtive. Nos idées manquent parfois de bases solides, mais il suffit qu'on veuille nous persuader qu'elles sont fausses pour que nous devenions ardents à les défendre. Ce ne sont évidemment pas les idées elles-mêmes que nous défendons, mais notre amour-propre. Il en va de même pour les idées négatives que nous avons sur nous. J'ai moi-même longtemps souffert de cette habitude de penser. Lorsque je séchais sur un devoir de latin, une seule idée hantait mon esprit. Je ne comprends pas, je n'y arriverai jamais. Plus rien ne venait. Et la séance se terminait quelquefois par des larmes, au grand désespoir de mes parents. C'est en buvant un jour, juste avant un examen, une tasse de café, que j'eus la brusque révélation. Je ne prenais jamais de drogue, et la caféine eut sur mon esprit un effet extraordinaire. La solution d'un problème de mathématiques m'apparut en quelques secondes, et il me fallut moins du tiers du temps imparti pour rendre une copie brillante qui me valut des félicitations. À partir de ce jour, je me mis en quête de moyens naturels permettant de retrouver ce même état d'excitation mentale qui me branchait directement à la solution. J'en découvris plusieurs, qu'ils s'appellent créativité, intuition, perception extrasensorielle. Ces états de conscience particuliers m'ont semblé bien proches les uns des autres. Ils sont à l'opposé de ce que nous sommes ordinairement. Dans la civilisation moderne, l'individu se caractérise surtout par une activité assez grande et tournée vers le côté pratique de la vie, par beaucoup d'ignorance, par une certaine ruse et par un état de faiblesse mentale qui lui fait subir l'influence du milieu où il lui arrive de se trouver, écrivait Alexis Carrel dans « L'homme, cet inconnu ». Nous commençons à prendre conscience de notre état de faiblesse mentale qui nous rend le jouet de suggestions économiques, politiques, culturelles. La plupart d'entre nous sommes chargés de besognes fastidieuses qui font rarement appel à nos facultés d'intelligence et d'imagination. On voit les jeunes cadres fraîchement sortis de l'école, bouillonnant d'idées, se ternir peu à peu et s'aigrir à l'ombre des grandes sociétés. Nos facultés psychiques naturelles s'étiolent dans la routine au fil des ans. Essayez de comprendre comment libérer ces facultés, ou du moins celles qui semblent intéressantes, utiles et positives, voilà le sujet de ce livre. Je l'ai vainement cherché en librairie. Des bribes se trouvaient dans certains ouvrages, ça et là. Aucun n'utilisait un langage convaincant. Quelques-uns, au langage trop universitaire, se perdaient en conjectures stériles. La plupart mélangeaient une idéologie simpliste, des croyances inutiles, à l'explication des phénomènes. Aucun ne me semblait en équilibre. Soit leurs auteurs doutaient de tout, soit ils croyaient tout. L'idée m'est alors venue d'écrire le livre que j'aurais aimé lire. Un livre qui ne rebute pas trop nos structures intellectuelles occidentales, un livre qui fasse le pont entre des domaines si proches et pourtant étrangers. La description des méthodes de développement personnel psychologique et parapsychologique que je pratique depuis plusieurs années est donc une tentative dans ce sens. En enseignant l'une de ces méthodes, la dynamique mentale, j'ai pu voir combien l'intégration de l'intuition et d'autres facultés paranormales dans notre personnalité pouvait être équilibrante. Lutter continuellement contre cette partie de nous-mêmes, la refouler, crée des tensions inconscientes. L'attitude autocritique, dépréciative, qui nous a été enseignée par l'éducation rationaliste, peut être contrebalancé par la révélation de ses pouvoirs. Ils donnent à notre
existence, une autre dimension. Le développement de nos facultés paranormales peut contribuer largement à abolir les conditionnements traditionnels de temps, d'espace, de langage et de pensée, à libérer notre esprit de contraintes, des doutes et de l'angoisse. C'est un pas de plus vers la liberté. L'embarcation est prête. Venez découvrir ou mieux connaître l'autre rive sur l'océan de l'être, au cœur de nous-mêmes.